Et aujourd'hui, dans cette dernière partie de l'émission, nous recevons l'association France Alzheimer, hein, qui fête en 2015 ses 30 ans, enfin fête si on peut dire ça. Pour nous en parler, c'est Gérard Lambert, hein, secrétaire général de la section départementale du Rhône, qui a pris place derrière le micro. Bonjour Gérard.
Bonjour à tous, merci de m'accueillir.
Je vous en prie. En France, la maladie d'Alzheimer, Gérard, les maladies apparentées, hein, dégénérescence frontotemporale, démence à corps de Lévy, démence vasculaire, elles touchent près d'un million de personnes. Chaque année, c'est plus de 200 000 nouveaux cas qui sont révélés. Dans le département du Rhône, hein, c'est 25 000 personnes qui sont touchées par la maladie. France Alzheimer, elle accompagne les malades et les familles dans le cours de cette maladie. Et dans le Rhône, eh bien, qu'est-ce que ça donne pour ça? Je passe la parole à la magnifique Mathilde et au non moins séduisant Florent qui fait la gueule sinon. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette association?
Alors, c'est une association qui est créée
en 1986, soit un an après la Fédération nationale.
Avec des membres,
400 adhérents et 50 bénévoles, dont 20 qui sont très actifs.
Et un budget assez important quand même.
200 000 euros.
Merci. Je rajoute un chiffre que vous n'avez pas cité, zéro. Zéro comme zéro traitement curatif pour guérir ces maladies. Zéro comme zéro traitement préventif pour les éviter. Gérard, elle en est où la recherche?
Alors, en ce qui concerne la recherche, donc, il y a plusieurs axes. Et ce que tout le monde souhaiterait, c'est d'avoir un traitement curatif.
Bien sûr.
Actuellement, donc, ce n'est pas le cas. Les seuls médicaments sont des médicaments symptomatiques, qui agissent donc sur les symptômes de la maladie, et en particulier donc au niveau des neuromédiateurs qui interviennent dans le fonctionnement du cerveau. Alors, la recherche néanmoins existe. Cette recherche, elle est active, et France Alzheimer donc, essaie donc avec son comité scientifique d'être une association qui puisse faire améliorer cette recherche. Et il y a plusieurs axes. D'abord, il y a un axe de compréhension de la maladie.
Oui, c'est important.
Alors, on connaît ce qui se passe dans le cerveau, entre autres pour la maladie d'Alzheimer. C'est deux protéines, la protéine amyloïde, la protéine tau.
Oui.
On ne sait pas qu'est-ce qui cause le dérèglement de ces protéines.
Et oui.
Et donc, il faut à tout prix donc, bien connaître. Et il y a donc quelques pistes. Bon, il y a des pistes sur d'autres types de cellules que l'on rencontre dans le cerveau.
Oui.
Il y a quelques autres pistes donc, de recherche fondamentale. Mais actuellement, donc, on est encore
dans cette phase de compréhension. Voilà,
oui,
vraiment de comment tout ça se déclenche. Quoi. Et ça, c'est hyper important. On ne peut pas trouver de traitement si on n'a pas compris ça.
Alors, exactement. On peut dire parmi quand même certaines pistes aussi et des axes de travail, il y a l'aspect prévenir l'apparition de la maladie.
Oui, oui.
Hein, parce que la maladie, on peut avoir des liaisons dans le cerveau sans avoir des symptômes d'ailleurs.
Bien sûr, oui.
Et les symptômes se déclenchent assez tardivement. Et plus on arrivera donc à prévenir l'apparition, si on peut dire qu'on gagne 5 ans au niveau de l'apparition, ça permettrait d'éliminer la moitié des cas mondiaux.
Ben oui.
Donc c'est quand même une piste qui n'est peut-être pas une piste curative, mais c'est une piste extrêmement importante pour la qualité de vie donc des personnes âgées.
Pour l'accompagnement, plus tôt c'est fait, mieux c'est pour la personne.
Absolument. Alors parmi les pistes les plus prometteuses, la voie des gènes. Donc il y a toute une série de recherches qui doivent permettre de détecter des gènes qui peuvent vraiment ralentir la progression de la maladie.
D'accord.
Et donc là, on a quand même quelques pistes sérieuses. Bon, avec le gène de l'enzyme, HMG-CoA, enfin bon, certaines pistes qui sont quand même déjà en stade d'élaboration, donc assez fortes.
C'est bien de voir qu'au niveau de la recherche, même s'il y a, on le disait, pas de traitement curatif, il y a quand même des pistes. Alors, France Alzheimer, c'est la seule association nationale de famille qui soit reconnue d'utilité publique dans le domaine de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées. Et vous avez un credo, c'est s'occuper au quotidien des personnes atteintes de la maladie, c'est épuisant. Donc, il faut ne pas rester seul face à la maladie. Ça, c'est votre créneau.
Oui.
Et pour ça, y a des groupes de parole, notamment, que vous organisez.
Alors nous, on est association de famille, on a des actions concrètes
et
sur le terrain qui s'adressent à la famille, soit à l'aidant. On appelle aidant la personne qui, en général, a un lien de famille. C'est le conjoint, c'est l'enfant. Et c'est cette personne qui prend en charge le malade. Donc on a des actions spécifiques par rapport aux aidants, on a des actions spécifiques par rapport aux malades.
Et alors, un type d'action spécifique pour les aidants, c'est qu'il n'y a pas que des groupes de parole, il y a aussi un volet formation.
Alors, nous avons un volet formation qui permet de mieux comprendre la maladie, qui permet de mieux comprendre les aides auxquelles la famille peut avoir droit, qui permet de mieux comprendre également les aspects juridiques, en termes de bon, est-ce que je dois mettre mon malade en tutelle, en curatelle, des aspects comme ça, qui permet aussi de mieux ajuster le comportement de l'aidant par rapport à la pathologie du malade. Alors vous avez cité quelques cas de maladies apparentées, donc chaque malade a des troubles de comportement qui lui sont propres, donc il faut bien les connaître pour mieux ajuster sa relation avec lui. Chaque maladie, elle a un syndrome de trouble qui est beaucoup plus profond dans une maladie que dans une autre. Oui. Donc il faut aussi bien savoir quelle est la maladie donc, qui atteint notre malade pour ajuster vraiment ce que j'ai dit, donc son
personnaliser,
comportement.
Personnaliser l'encadrement, l'accompagnement.
Absolument. Et donc, alors, ça, c'est important.
Vous proposez aussi, on a dit, toute cette formation qui est hyper nécessaire parce qu'on n'est pas formé à s'occuper de sa mère, sa grand-mère qu'a Alzheimer ou les maladies apparentées. On est démuni face à ça. Mais justement, quand on est démuni, on peut être épuisé aussi. Et vous, à France Alzheimer Rhône, vous proposez des solutions de répit pour justement prendre le temps de renouer un lien de partage, un lien beau entre l'aidant et la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et par exemple, il y a cette super initiative, les séjours vacances répit. Vous nous en dites quelques mots ?
Alors, ces séjours vacances répit, donc c'est comme le nom l'indique, c'est pour prendre des vacances, donc pour couper un peu avec sa vie habituelle. Et on a donc différents types de séjours qui sont intéressants parce qu'ils permettent de couvrir une diversité donc dans les situations des familles. Alors on a un séjour détente qui s'adresse aux couples aidants aidés.
Oui.
Bon, et avec en général des malades qui ne sont pas sévèrement atteints, qui sont plutôt en stade léger voire modéré, et donc qui permettent d'avoir des activités vraiment animées par des bénévoles qui s'adressent donc à l'aidant aidé, en complément donc d'une liberté pour l'aidant aidé donc de réaliser des activités qu'il souhaite. On a également des séjours répit. Ces séjours répit, c'est un peu le style du séjour détente, mais ça s'adresse à des malades qui sont plus sévèrement touchés.
Oui.
Donc avec vraiment là, des équipes qui peuvent prendre en charge pour des activités donc
encadrées
et laisser l'aidant profiter donc de moments de répit où il peut s'occuper donc à des activités dans son cadre de ses vacances donc qui lui sont propres. On a aussi, et là c'était nouveau, c'était donc créé il y a quelques temps, donc des séjours aidants isolés.
Ah oui.
Puisque un aidant peut perdre son malade.
Mais oui.
C'est un choc énorme puisque consacrer sa vie à un malade et puis se retrouver donc sans rien. Donc et ça permet donc d'avoir des soutiens psychologiques qu'on organise et des activités en commun. C'est... avec des gens qui sont dans cette même situation pour pouvoir échanger, pour pouvoir essayer de créer également du lien social qui s'est délité donc au fur et à mesure de l'avancement.
C'est très nécessaire et c'est pas juste à des séjours qui sont ponctuels, qui sont exceptionnels. France Alzheimer Rhône, c'est aussi des possibilités d'ateliers, d'accueil de jour pour les malades qui, eux, sont au quotidien. Il y a à Villeurbanne, il y a à Dardilly, c'est ce que vous appelez l'accueil de jour Alzheimer Club à loisirs.
Oui.
Ça consiste en quoi, rapidement ?
Alors, ça consiste donc à accueillir les malades qui sont à un stade, puisque nous, on s'est spécialisé plutôt dans les malades, à un stade de modéré. Et les accueils de jour existent dans d'autres structures et nous travaillons avec les autres structures d'ailleurs et nous les remercions. Et donc nous on s'adresse plutôt à un stade modéré parce qu'on fait des activités qui sont propres à l'état. Donc ça peut être des activités aussi qui sont sportives, ça peut être des activités donc qui sont beaucoup plus sollicitantes du point de vue donc des capacités cognitives des personnes. Alors ces accueils de jour donc accueillent le malade toute la journée. Il y a un transport aussi qui est associé parce que pour les aidants, ce n'est pas toujours facile d'accompagner son malade. Il y a donc des ateliers qui s'enchaînent de manière dynamique. Alors ça peut être des ateliers d'art-thérapie, ça peut être des ateliers de dessin. Donc c'est des ateliers aussi qui concernent des jeux d'adresse, jeux de ballon.
Vous avez prononcé un mot, Gérard, je rebondis dessus, vous avez prononcé le mot thérapie. Et je crois que ça c'est très important pour vous. C'est pas de la garde.
C'est ça.
C'est vraiment à la fois du répit et la thérapie, tout ça c'est lié.
Exactement, parce que pour nous ça permet donc au travers de ces activités thérapeutiques donc, de faire en sorte d'avoir une stimulation des capacités cognitives. Donc des malades,
bien sûr.
Et éventuellement donc également de leur créer du lien social. Donc c'est au-delà du répit pour l'aidant, ce qui est important aussi.
Bien sûr.
Mais par contre, notre signal peu d'alarme, c'est le fait que ces structures-là coûtent cher, il faut de l'encadrement, il faut un nombre donc à peu près d'une dizaine ou d'une douzaine de personnes. Et derrière, il ne faut pas qu'on puisse avoir des accueils de jour qui recueillent trois personnes. Ça ne serait pas possible de faire effectivement ces activités à visée thérapeutique telles qu'on vient de les décrire.
Et c'est important de le dire.
C'est important de le dire,
bien sûr.
Absolument.
Depuis tout à l'heure, on parle de la difficulté de faire face au quotidien à la maladie d'Alzheimer. On a entendu ce que vous proposez à France Alzheimer Rhône, ce que vous mettez en place pour accompagner les malades, mais aussi, bien sûr, les familles. Vous êtes une association de familles. Mais pour essayer de vous faire comprendre, chers auditeurs, ce que ça veut dire, souffrir de la maladie d'Alzheimer, accompagner quelqu'un qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Et donc, oui, combien des associations comme la vôtre, France Alzheimer, sont nécessaires? Je vous propose, après une petite pause musicale, signée Alain Bachung et sa chanson « Sommes-nous », un petit témoignage.
Si l'on disait le contraire, ou si l'on ne disait rien, si l'on construisait les phrases à l'envers, ou si l'on soulevait de main, qui serait l'adversaire entre nous, qui serait le plus malin? Et si l'on disait le contraire, ou si l'on ne disait plus rien? Je t'ai manqué.
Ça commence toujours par des petits oublis. Mais pour Janine, le plus angoissant, c'était de se rendre compte qu'elle oubliait. Tous les jours un peu plus. Qu'elle avait beau chercher, ça ne revenait pas. Ça ne reviendrait plus. Elle avait beau écrire à un consigné dans des carnets ce qu'elle faisait. On avait beau lui écrire sur des papiers, punaiser au mur juste en face d'elle ce qu'elle avait à faire. Rien n'y faisait, elle oubliait. Combien de fois l'a-t-elle lu pour la première fois ce livre d'Éric Emmanuel Schmitt, Oscar et la Dame en Rose, sur la première page duquel elle avait pourtant griffonné, lu au crayon de papier? Parfois, Janine, assise dans son fauteuil, sa loupe à la main, levait le nez de son livre et elle ne savait plus où elle était. Quel moment de la journée il était? Pourquoi elle était toute seule et la panique montait? Pourtant, Janine, elle était rarement seule. Elle avait la chance d'habiter chez sa fille qui, pendant les 5 années de la maladie de sa mère, a mis sa vie entre parenthèses pour s'occuper d'elle, par amour. C'est qu'il fallait aider Janine dans toutes ses actions ordinaires, pour lesquelles elle devenait de plus en plus dépendante, s'habiller, se laver, aller aux toilettes, etc. Parfois, Janine était en colère contre elle-même, de ne plus réussir à se rappeler. Cette colère, elle la reportait parfois sur ses proches, sur sa fille d'abord. C'est pas forcément facile de devenir la mère de sa mère. Ça l'est encore moins de voir sa mère devenir agressive et violente. Après les pertes de mémoire, survient une altération du langage. Quand Janine racontait sa journée, parfois des mots lui manquaient, des mots mais comme chien, volé, rideau, des mots de tous les jours. À la fin, Janine ne parlait presque plus, et pourtant dans ses yeux, croyez-moi, on pouvait voir bien des mots se bousculer. La maladie progresse et ce sont des troubles de l'orientation dans le temps, dans l'espace qui apparaissent. Ainsi qu'une difficulté à effectuer des gestes dits élaborés, c'est-à-dire tenir un stylo, décrocher le combiné du téléphone et même des gestes devenus automatiques depuis l'enfance, marcher, déglutir. C'est aussi une impossibilité à reconnaître des personnes proches qui apparaît. Comme tous les samedis depuis un an, le petit-fils de Janine est venu avec sa mère voir sa grand-mère au Clos Fleury, la maison de retraite où elle avait fini par être placée la dernière année de sa vie. Mais ce jour-là, quand il s'est assis à côté de sa grand-mère, il a vu dans ses yeux qu'elle ne savait pas qui était ce jeune homme de 19 ans qui venait de l'embrasser, lui souriait, lui parlait. Ce jour-là, les yeux de sa grand-mère ont voyé de lui le reflet d'un étranger. Et il n'oubliera jamais ce que c'est que de mourir dans les yeux de celle qu'il avait pourtant élevée. Des histoires comme celle de Janine, sa fille, son petit-fils, bon, il en existe tellement d'autres, chers auditeurs. C'est pourquoi la maladie d'Alzheimer, elle a été déclarée grande cause nationale en 2007, grâce à l'action d'ailleurs de l'association France Alzheimer, que j'avais tant de volonté de recevoir aujourd'hui. Un plan Alzheimer 2008-2012, il a été mis en place et il encourage les services de soins infirmiers à domicile. Il a créé des plateformes d'accompagnement et de répit. Il a mis en place 17 maisons de l'autonomie et de l'intégration pour les malades d'Alzheimer, les MAIA. Et il favorise aussi la création d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les fameux EHPAD qui sont un petit peu connus. L'action de l'État pour encadrer la maladie d'Alzheimer, Gérard, elle est suffisante, vous trouvez ?
Alors, il y a eu plusieurs plans Alzheimer, donc, dont celui dont vous venez de parler, qui est le plan 2008-2012.
Et c'est le troisième.
C'est le troisième et qui était effectivement le plus efficace en termes d'engagement financier, parce que c'est bien sûr, les moyens financiers sont importants, et en termes de structuration donc, et d'organisation, donc vous l'avez dit, hein, de structures de répit, d'organisation aussi d'accueil, parce que les MAIA dont vous avez parlé permettent de gérer des cas qui relèvent également parfois... pas uniquement du médical, mais du social. Et trouver des solutions qui sont vraiment importantes pour placer le malade dans des circonstances qui sont parfois extrêmement difficiles. Donc, ce plan Alzheimer a apporté un vrai plus. Actuellement, nous avons un plan qui va venir, le plan des maladies neurodégénératives, puisqu'il associe Parkinson et la sclérose en plaques. Donc, ce plan a été annoncé. Nous, ce que nous voudrions, c'est que le rôle de l'aidant soit reconnu, parce que l'aidant a un rôle majeur et c'est lui qui prend en fin de compte en charge le malade avec des éléments de solidarité nationale, mais parfois qui ne sont pas suffisants parce que le reste à charge est quand même très important.
Il faut aller plus loin aujourd'hui.
Il faut aller plus loin et derrière donc ce plan neurodégénératif, donc nos craintes, c'est effectivement que les moyens financiers ne soient pas suffisants pour assurer donc déjà une reconnaissance du rôle de l'aidant et puis aller encore un peu plus loin dans les accueils de jour, dans toutes ces structures, entre autres même en EHPAD, qui permettent d'avoir un vrai accompagnement thérapeutique du malade.
Ça, c'est vraiment le message que vous vouliez faire passer aujourd'hui au nom de l'association.
Absolument.
Je vais passer maintenant à des questions plus personnelles, si vous le permettez, Gérard. Pourquoi, tout simplement, vous avez choisi de vous engager dans cette association et pas une autre ?
L'association France Alzheimer, je l'ai choisie pour une raison majeure, c'est que ma maman est atteinte. Et donc... d'une certaine façon, en prenant du recul, j'ai pas eu accès aux formations telles qu'on les dispense, j'ai pas eu accès à un certain nombre donc de services tels qu'on les propose et qui m'ont pénalisé dans la relation que je peux avoir avec ma mère, dans la compréhension de la maladie. Donc avec du recul, j'ai perdu du temps, j'ai appris par moi-même et en échangeant avec d'autres, mais j'aurais été certainement beaucoup plus efficace, beaucoup plus conciliant, beaucoup plus calme peut-être, si j'avais eu cette connaissance de la maladie et cette faculté d'adapter mon comportement de manière pertinente.
C'est important d'avoir un témoignage aussi comme ça.
Alors c'est vrai que c'est important, c'est pour ça que l'engagement est pour moi est très fort parce que d'une
part... Comment vous le définiriez-vous l'engagement associatif ? C'est la question que je pose à tous mes invités.
C'est un engagement militant.
Militant.
Donc militant, on apporte du soutien, on milite pour plus de solidarité. C'est un engagement aussi qui pour moi représente de l'action, un retour sur action qui est... très 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 fort.
Être militant, être utile, on retiendra ces mots, Gérard. Le temps d'un jingle, ce sont Mégone qui prennent la parole et ils ont quelques questions à vous poser.
Jean-Pierre ? Si tu devais te comparer à une vedette de cinéma, à qui est-ce que tu te comparerais-tu ?
Je vous demande de vous arrêter.
When do you get to that point of enough is enough?
Never.
C'est Marie-Ève, je crois, qui a une question à vous poser, Gérard.
Oui, alors je suis allée sur votre site internet et puis j'ai lu le témoignage de Marie-Madeleine et puis il y a une phrase qui m'a marquée. C'était celle-ci. Il lui reste le sourire, la mémoire des gestes et particulièrement ceux de la vie affective et ceux de la musique. Alors le sourire, la mémoire des gestes de la vie affective et de la musique, pour moi, sont trois dimensions essentielles de l'existence. Et est-ce que ce ne serait pas beau si on avait tous un peu ces symptômes-là ?
Alors, c'est certain, enfin, je connais Marie-Madeleine personnellement, donc c'est vrai qu'elle est mutique. Donc, elle ne comprend pas réellement ce qu'on lui dit. Donc, je pense que l'effort que a fait son mari... c'est un effort de comprendre les capacités qui lui restaient et d'essayer de les mettre en résonance dans son accompagnement quotidien. Et c'est vrai qu'on apprend beaucoup des malades, On apprend énormément parce qu'ils perdent une certaine forme d'identité et de, et de défense. Ils sont sans défense. Donc ils se livrent entièrement et ils sont dans le domaine de l'émotion, donc très fortement. Et on, c'est une vraie richesse quand on comprend comment communiquer, même si bon, leur perte d'identité fait qu'on n'a pas une relation avec la même personne. C'est vrai, vous avez raison.
Mathilde, est-ce que tu as une question à poser à Gérard ?
Alors moi, ça m'a mise un peu mal à l'aise de me dire qu'il fallait que je prépare une question décalée sur ce sujet, parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'on traite souvent cette maladie qui est assez connue, mais peut-être méconnue du grand public. On la traite souvent sur le ton presque de l'humour, parce qu'évidemment, une personne qui perd un peu certaines capacités va... Ça va engendrer des situations un peu cocasses. Et moi, j'ai déjà entendu des gens qui travaillent au quotidien, par exemple dans des maisons de retraite, des personnels de santé, qui vont raconter des anecdotes. Tiens, tel malade a fait ça et c'était drôle. Est-ce que vous pensez que ça découle d'une mauvaise connaissance de la maladie? Ou est-ce que vous pensez que c'est aussi une façon de gérer cette tragédie?
Alors, la maladie, c'est un fardeau porté par, bien sûr, le malade, hein, parce que le malade peut, surtout en début de maladie, a conscience de sa maladie, puis son entourage qui s'en occupe. Donc, c'est quelque chose de très lourd, et c'est une longue descente inéluctable, hein, c'est une rivière sans retour. Donc, au travers également des médicaments dont on sait qu'ils ne peuvent pas guérir. Alors, derrière, il faut sortir de temps en temps hein, de ce climat lourd et pesant. Je pense que c'est une des missions de l'association, c'est de faire en sorte qu'on puisse sortir de son isolement. Et puis l'humour fait partie des malades. Hein. L'humour, on a beaucoup de cas donc, qui remontent, comme quoi un malade est encore capable d'humour. Hein. Je pourrais vous citer l'exemple d'une dame que je connais qui a été diagnostiquée. Et on m'a raconté que quand le médecin lui avait appris, elle avait dit « Ah docteur, je vais m'empresser de l'oublier ». Il y a des phrases comme ça, je pense que ça allège et ça permet de continuer à vivre avec le malade qu'on maintient dans la vie et également de vivre sa vie soi-même quand on est aidant.
Ben, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup vraiment Gérard d'être venu nous parler de l'association France Alzheimer qui est donc pour la Fédération Nationale faite en 2015 ses 30 ans. Cette interview je la dédie à ma grand-mère. J'ai pas l'habitude de dédier mes émissions. Ni de vous raconter ma vie, chers auditeurs, promis, je ne le fais plus. La dernière dédicace hein, que j'ai faite, c'était lors du 6e numéro de présidence, qui était justement consacré à la question de la dépendance. C'était fin novembre 2011. Il est disponible sur notre site, dans les archives. La boucle est bouclée.
Je t'ai manqué. Pourquoi tu m'as...